Et pour commencer, direction Kiev, la capitale ukrainienne qui, en un mois, s'est en partie vidée de sa population. Vous avez choisi de rester, Constantin Sigov, bonjour.
Bonjour, je suis très heureux de vous saluer à partir de l'Ukraine.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI. Vous êtes philosophe, directeur du Centre européen de l'Université Morila de Kiev. Pourquoi avez-vous choisi de rester ?
Écoutez, je comprends parfaitement les gens qui sont partis. Je crois que chacun à sa place peut-être peut faire des choses absolument nécessaires selon nos métiers, selon nos responsabilités, de résister là où nous sommes. Par exemple, au bout d'une semaine de bombardements, ma femme et ma fille ont décidé d'aller à l'ouest du pays. Mon frère et ma mère sont là. Et voilà.
Et vous, à votre place, que faites-vous ?
Écoutez, nous sommes en train de voir les crimes de guerre qui sont commis systématiquement, méthodiquement par l'armée russe à proximité, aux environs de Kiev, par exemple. Et la situation spécifique de cette guerre, qu'elle est, dès le départ, est mêlée, annoncée par le mensonge, et elle est mixée avec des grosses doses de mensonges. Et je crois que c'est très important aussi de témoigner de ce que nous sommes en train de vivre, des motivations de notre résistance, puisque justement c'est la France aujourd'hui qui est en tête de l'Union européenne et qu'il y a un certain nombre de décisions à prendre. Par exemple, par rapport à l'intégration de l'Ukraine, c'est très important de parler des vives voix en français, en votre belle langue, à vous, et témoigner des choses que nous sommes en train de vivre ici à Kiev.
Comment précisément avez-vous vécu ces 4 semaines de guerre au quotidien ?
Écoutez, puisque nous sommes aux radios, donc c'est la sonorité qui compte, je dois dire que la nuit du 24 février était la plus terrible de ma vie, alors que je suis né à Kiev en 1962. C'était absolument terrible, c'est comme, si vous voulez, à la fois destruction soudain de votre tête, de votre crâne, de votre maison. Les frappes étaient si terribles que, bien évidemment, j'étais réveillé. Et depuis, en fait, cette terrible sonorité nous accompagne tous les jours et toutes les nuits.
Donc en un mois, on ne s'habitue pas à cela, on fait avec, simplement.
Je ne peux pas dire qu'on peut s'habituer à cela. Au contraire, toutes les images de la guerre, toutes les expériences de la guerre, c'est quelque chose à quoi on ne peut absolument pas s'habituer. On vit, bien évidemment, nous tous, de façon beaucoup plus modeste, mais je dirais sur le plan matériel correct. Une des choses les plus terribles, c'est que les services spéciaux ont enregistré les conversations téléphoniques des soldats russes, des appels faits au téléphone portable par les soldats russes à leur petite amie en Russie. Et ils sont sous-titrés d'ailleurs aussi déjà en anglais, en YouTube, vous pouvez leur entendre vous-même. Et donc, les conversations à la fois, si vous voulez, banales, mais c'est ça que Hannah Arendt appelait les banalités du mal. Tu vas pouvoir apporter tout ça à la maison au moment des pillages, je prends un mixeur pour toi. Et la fille ne dit pas, toi, rends ce mixeur immédiatement, je ne te laisserai jamais. Elle dit, oui, c'est bien, j'en ai besoin. Si vous voulez, cette banalité du mal, c'est tellement terrible qu'à cela, on ne peut absolument pas habituer.
Constantin Sigov, le 24 février dernier, tous les stratèges disaient que l'Ukraine ne tiendrait pas face à la puissance de feu de l'armée russe. Or, ce qui se passe aujourd'hui surprend à beaucoup d'égards. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine peut gagner cette guerre ? Et comment percevez-vous cette résistance de l'armée et de la population ukrainienne à l'assaut des Russes ?
Écoutez, c'est très étrange, mais là, au bout des 4 semaines de cette guerre, l'armée russe a perdu plus de soldats que pendant 10 ans des guerres en Afghanistan. Ça veut dire que...
On estime ces pertes à environ 10 000 hommes, hein, faute évidemment de bilan précis, exact et vérifié.
Oui, 10 ans de la guerre en Afghanistan menée par toute l'Union soviétique, c'était quand même un empire beaucoup plus puissant, et en fait, aucune but n'a été gagné. Aucune grande ville comme Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Zaporizhzhia, c'est-à-dire rien, ils n'ont rien, ils n'ont pris rien. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est au clair que Poutine est incapable de prendre Kiev. Sur le plan civil et politique, Poutine a déjà perdu cette guerre. Simplement, précisément puisqu'il est incapable d'avancer et de prendre la capitale d'Ukraine, il est en train de la détruire, c'est-à-dire il est en train de méthodiquement détruire les villes.
Vous craignez donc que l'enlisement qu'on évoque de l'armée russe dans ce conflit ne se traduise par des conséquences encore plus dures pour les civils, c'est ça ?
Si vous voulez, devant nous, il y a des gens qui ont perdu toutes sortes d'humanité, c'est-à-dire des êtres humains qui ont à l'apparence un visage comme les autres, mais pour qui la mort, par exemple, des 125 enfants déjà ukrainiens qui sont tués ne fait rien.
Constantin Sigov, Volodymyr Zelensky a demandé hier devant le Parlement français de poursuivre la politique de sanctions vis-à-vis de la Russie, de les accentuer, de continuer à livrer des armes à l'Ukraine. Les Européens pourraient, devraient faire plus, d'après vous ?
Oui, c'est absolument nécessaire. Déjà, tous les chars russes, les soldats russes qui sont venus vers Kiev, ils ont traversé la frontière biélorusse. Biélorussie est impliquée dans cette guerre, instrumentalisée, utilisée. Il faut absolument couper l'alliance militaire Poutine-Loukachenko. Ça, c'est quelque chose de très concret qu'on doit faire maintenant. Parce que si demain, les bataillons biélorusses sur le sol ukrainien, ça aggrave énormément les situations internationales, encore une fois. En revanche, tout ce qu'on peut faire pour la défense aérienne, l'armement britannique et d'autres éléments sont fournis, mais on peut faire encore beaucoup plus aussi au niveau des drones, au niveau des techniques, sans entendre nécessairement demain des soldats français sur notre sol.
Donc vous attendez davantage de la France, des Occidentaux en général ?
Oui, tout en remerciant d'ailleurs des gestes extraordinaires de l'hospitalité par rapport aux 3 millions de réfugiés ukrainiens, ça entrera dans tous les manuels d'histoire de la France et de l'Europe.
Constantin Sigov, merci d'avoir été avec nous en ligne de Kiev. Je précise que cet entretien a été enregistré hier après-midi. Vous êtes philosophe, directeur du Centre européen de l'Université Moïla de Kiev.
Merci pour vous.